À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, ouais.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le 92.2. Chers amis auditrices et auditeurs de Radio Cité, bonjour. C'est rarement que j'ai autant de personnes autour de moi quand on décide de faire une interview. D'ailleurs, il y a François que j'ai rencontré il y a 3-4 ans, on avait déjà fait une petite émission ensemble. François, je vais laisser se présenter comme un petit peu tout le monde autour de cette table. Et puis, on est là parce que, ben, vous savez, les associations, c'est quelque chose qui nous tient au cœur, surtout quand on le voit ici, il y a une certaine dynamique. J'ai à ma gauche quelqu'un qui a les bras croisés. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Alors François, toi, tu es le président.
Oui.
D'accord. Alors, on va se présenter après. Je suis curieux parce que je ne connais pas ce monsieur. Je vais déjà lui demander comment il s'appelle et quel est son rôle dans cette association. On verra un peu plus tard ce qu'elle fait exactement.
Alors, bonjour, c'est Jean-Marc Varidel. Je suis le fondateur de l'ADED, Association pour le Développement Durable. Comité et présidence que j'ai quitté en mai 2023.
Mais qu'est-ce qu'il fait là,
à François, qui a repris le flambeau de président.
D'accord.
Et que j'ai créé, ADED, que j'ai créé en 2011, pour apporter de l'aide technique et financière aux projets de développement durable dans le domaine de l'eau, eau, hygiène et assainissement, en lien avec l'ODD 6 des Nations Unies.
D'accord. Donc l'objectif du développement durable. À ta gauche,
C'est Robertine Sanvoura. Donc, je suis ingénieure agronome de formation et je suis agent de développement comme Jean-Marc. Et je suis donc membre du comité de ADED depuis le mois de mai 2023. Donc, je suis venue en même temps que François et donc c'est un plaisir de donner mes compétences techniques et voilà.
On continue ? Allez, oui, c'est gentil de te rapprocher.
Bonjour, je suis Rosemarie Pascal. Je connais les Varidel depuis de nombreuses années. Nos enfants ont le même âge. Et nous avons fait partie de plusieurs associations et quand ils ont créé ADED, je les ai suivis à distance, je donnais des coups de main ponctuels et depuis 2 ans, il me semble, je fais partie du comité.
Il te semble que ?
Oui, il me semble, parce que je ne suis pas dans la comptabilité. C'est, comme on a dit, c'est le cœur qui compte quand on aide.
Alors, c'est qui est dans la comptabilité ici ? Parce que dans une association, il y a des chiffres de temps en temps.
D'être précise, mais je n'ai pas cette précision. Désolée.
Alors peut-être que les précisions vont venir plus tard. D'une personne qui m'a dit « Oh, mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire ».
Non, j'ai dit que je parlais moins. Je m'appelle donc Nathalie Varidel. Je suis l'épouse de Jean-Marc. Donc, en fait, je suis un peu la mémoire vivante de l'association, puisque j'ai suivi Jean-Marc dès le début. Je m'occupe en partie des finances, mais on a un comptable externe qui supervise nos finances.
Ah ben voilà, pour ce qui est de la précision mathématique, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Alors, ADED, Association pour le Développement Durable. Et puis là, ben, l'eau c'est la vie, on est d'accord. Hein. Et je vois sur ce petit flyer que je vois, qui est graphiquement très joli, évidemment, il y a une goutte d'eau, il y a des filtres, il y a des points sur la planète. On voit que ce n'est pas qu'en Afrique. Hein. Je vois qu'on est en Équateur, en Bolivie, au Brésil, au Cambodge. Attendez, c'est ambitieux ça.
Oui, puisqu'on répond plutôt à des demandes de personnes qui nous ont rencontrés, qu'on connaît, on a un réseau assez élargi, puisque moi-même, à l'origine, de parents suisses, je suis né en Centrafrique, j'ai grandi au Brésil. Donc voilà pourquoi je suis connecté à différentes parties du monde.
Oui, évidemment, si on pense à Soustang, les voyages forment la jeunesse, n'est-ce pas François ?
Ah ouais, c'est bien vrai, hein.
François, donc tu es le président maintenant.
Oui, de l'association depuis 2023.
Comment tu es rentré dans cette association ?
J'ai rencontré Jean-Marc, qui m'a parlé de l'association et qui m'a fait aimer l'association.
Et excuse-moi, pour quelle raison tu as accroché dans ce projet ?
Oui, parce qu'il m'a parlé de l'eau. Comme ingénieur forestier, quand on parle de l'eau, on pense aux forêts, on pense aux rivières. Donc je me suis dit, ah bah, c'est d'ailleurs mon domaine, pourquoi pas, si je peux être utile. C'est ainsi que je l'ai rejoint.
Alors on essaie d'être un peu plus concret maintenant. Est-ce qu'il y a un exemple de
de projet ou que ce soit sur cette belle planète où vous vous êtes dit, tiens, là, on va faire quelque chose parce qu'on se rend compte que c'est tout à fait plausible que d'arriver à un résultat et qu'au bout d'un certain temps, vous allez me dire, eh bien, on est arrivé. Là, il y a quelque chose, on est parti du point A pour arriver au point B. Et puis, s'il y a un point C, c'est qu'on peut faire mieux encore, mais déjà, ça fonctionne. Qui veut me répondre ?
Alors, ce que je peux dire au début, c'est que on n'a jamais été, on a trouvé un endroit, on s'est dit, tiens, ce serait bien de faire un projet, puis on l'a mené nous-mêmes. On répond à des demandes, on collabore avec des partenaires qui sont sur place, parce que c'est ces partenaires qui connaissent les besoins, qui vont rester sur place durablement, et donc nous, on vient en support à toutes ces personnes qui nous font des demandes dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement.
Ça me fait plaisir d'entendre ça, parce qu'il y a bien des associations qui veulent être aidantes sur le terrain, qui envoient des finances, mais qui n'ont aucun sentiment réel de ce qu'est la culture locale, de comment vont être dispersés, c'est le cas de le dire souvent, hélas, les flux financiers qui arrivent. Et on se rend compte que finalement, c'est peut-être un petit Suisse très généreux qui a mis des sous dans l'histoire, mais qui, quelque part, veut être aussi le directeur de qui va se passer, puisque c'est lui qui finance, et on oublie qu'on cherche des solutions pérennes. C'est bien ça, justement, qu'on évite avec le processus que vous avez.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, comment on a commencé ? C'est un ami qui m'a fait part d'un projet qu'il avait au Sénégal, un pays où j'ai vécu. On a vécu en famille une année en 2002 au Sénégal, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce pays. Et quand il m'a parlé du Sénégal, j'ai dit, OK, super, je peux aider. C'est comme ça un peu qu'on a commencé, en répondant à un besoin très concret de pompes manuelles pour l'irrigation. Chaque association a peut-être un angle d'attaque ou se différencie les unes des autres. Nous, on a développé des solutions très simples, des solutions appropriées, comme on dit, ou low-tech, ou alors smart-tech plutôt, qui est mieux comme terme.
Ça, mes auditrices, auditeurs, ils vont peut-être pas comprendre ça.
D'accord. Low-tech, ça fait cheap, ça fait
pas cher,
pas de technologie. Smart-tech, c'est des technologies appropriées pour la traduction en français. Ça veut dire des technologies simples, mais qui fonctionnent parfaitement et qui se veulent durables et qu'on puisse les reproduire, reproductibles et simples à entretenir. Voilà, avec peu de coûts pour démarrer le projet. Alors, on a commencé par développer une pompe aujourd'hui qui s'appelle la pompe Basilea, avec des partenaires en Suisse allemande. Une pompe qui permet d'aspirer de l'eau jusqu'à 6, voire 7 mètres de profondeur et la refouler 14 mètres plus haut, donc on peut remplir un château d'eau, par exemple. C'est une pompe qui permet de pomper 45 litres à la minute ou 2700 litres à l'heure, qui est des grosses quantités d'eau pour l'irrigation, mais qui peut aussi servir à l'adduction d'eau dans des ménages ou d'autres conditions.
Fréquemment, quand on pompe dans ces régions-là, on se retrouve sur une eau saumâtre en dessous. Est-ce que vous avez un système ? Parce que je sais par exemple qu'il y a certains pays où pour retirer le sel, on cultive du bambou autour et puis finalement le bambou va absorber le sel et vous allez avoir une eau qui va être plus agréable pour nos amis les plantes.
Alors je dirais qu'après ce premier développement de pompe manuelle, on a développé, c'était le deuxième produit phare de l'association ADED, c'est le robinet de drop que vous avez vu à l'entrée. Un robinet pour l'hygiène des mains qui répond à la cible 6.2 de l'objectif du développement durable 6, donc d'ici 2030, fournir de l'eau et du savon à tout le monde pour l'hygiène des mains. On a vu combien l'hygiène des mains était importante lors du Covid. Donc ce robinet, il a une fonction unique, c'est-à-dire de donner de l'eau de façon hygiénique et de façon très économique pour le lavage des mains. Il ne traite pas l'eau. On doit donc mettre dans le réservoir sur lequel il est monté de l'eau propre. Et c'est avec le savon, selon l'OMS, qu'on va pouvoir se désinfecter les mains. Il n'y a pas besoin d'une eau potable, c'est de l'eau propre et du savon pour cela.
Donc si c'est un savon de bonne qualité, ça n'empêche pas l'eau de continuer à cheminer pour l'irrigation.
Tout à fait. Alors, c'est deux choses différentes. Hein. La pompe, elle est utilisée pour l'irrigation, pour l'adduction d'eau. Le robinet, vraiment, pour apporter de l'hygiène des mains. Alors, c'est un robinet innovant qui a des avantages par rapport à toutes les solutions qui ont été produites jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire un robinet qui permet de se laver les mains de façon hygiénique, c'est-à-dire avec très peu de contact. On actionne avec le dos de la main, qui est la partie moins contaminée de la main. Et puis, en faisant le bon geste, on permet que l'eau qui coule de ce robinet nous mouille les mains et ensuite nous les rince après avoir été savonné. Et avec 100 ml d'eau, on se lave les mains. Donc, un bidon, comme c'est la norme en Afrique, de 20 litres, on fait 200 lavages de mains.
Alors, là, je ne vais pas pouvoir... Tu sais, je n'ai pas une émission télévisuelle.
Non, c'est juste...
Donc, je vais voir. D'accord. Donc, recommence, s'il te plaît. Donc, on appuie avec la paume de la main sur l'embouchure. Ça fait descendre. OK. Donc, on a accès à l'eau en pressant sur le pommeau qui ressemble un petit peu à une petite douchette. D'accord. On se lave les mains. Et l'eau est récupérée en dessous.
Oui,
c'est ça. OK. Donc, oui. Mais c'est pratique, ça.
Là, ça peut faire un débricat d'eau.
Et ouais. Et c'est beau, les enfants, ils adorent ça.
Ils adorent ça.
C'est comment jouer.
Se laver les mains.
On a, avec ce robinet, il a permis de changer la façon de se laver les mains. On va plus se laver les mains là où il y a un point d'eau qui est des fois reculé, à un endroit unique pour une école de 600 élèves. Mais c'est le lave-main qui vient à nous. Mm-hmm. Et donc, l'idée, c'est de l'installer dans les classes d'école, au plus proche du besoin, dans le ménage où les femmes préparent à manger, à la cuisine, par exemple, aux toilettes, à toutes les marchés publics. Et puis, on le met... Donc, ça, comme il est très économique en eau, on peut transporter cette eau au lieu du besoin. Et puis en mettant plusieurs robinets autour d'un seul lave-main, ça devient un jeu, surtout pour les enfants, qui peuvent se laver jusqu'à 4 ensemble. Et donc ça apporte une dynamique, une amélioration des conditions d'hygiène.
Et puis un côté ludique.
Et un côté ludique, voilà. Alors ce produit, il est entièrement fait en Suisse. Il a été dessiné, produit par l'école d'ingénieurs de Saint-Imier, avec qui on a obtenu des bons prix pour ce produit. Donc c'est du moulage par injection, c'est de la haute technologie. On fait des moules qui vont recevoir ensuite du polypropylène injecté et qui va faire les pièces. Alors le robinet est composé de 4 pièces injectées. Un ressort, un O-ring en silicone. Tous ces produits sont de qualité eau potable, même si l'OMS dit qu'il n'y a pas besoin que ce soit de l'eau potable pour l'hygiène des mains. On a mis de l'anti-UV dans la matière du robinet, c'est-à-dire qu'il peut être au soleil sans se dégrader comme un plastique normal. Et en plus, il est antimicrobien pour éviter toute création de mousse et pour le rendre vraiment hygiénique au plus que possible.
Toutes ces infos, on va les retrouver sur aded-suisse.org. Oui, aded, c'est aded-suisse, ça on sait comment ça s'écrit, .org. Okay. Donc je laisserai bien évidemment sur le podcast votre lien internet pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus. Le point A, c'était surtout de pouvoir se laver les mains pour une histoire de bactéries et autres saletés. Maintenant, si on désire vraiment que ce soit une eau potable, est-ce que vous allez jusque-là?
Oui, alors... Le DD6, c'est eau, hygiène, assainissement. Donc, eau, l'accès à l'eau, hygiène avec le robinet. Les toilettes, assainissement, on n'y est pas encore. Mais dans l'accès à l'eau, dans l'eau potable, oui, puisqu'on fait du traitement d'eau. Alors, tu parlais avant d'eau saumâtre. Alors, l'eau saumâtre est peut-être l'eau la plus difficile à traiter, puisqu'elle demande l'extraction du sel qui est dissous dans l'eau et qui est quelque chose de très difficile à enlever. On doit passer par l'osmose inverse pour cela.
Et on récupère le sel dans ce cas-là.
Alors, oui, voilà. Après, il faut encore l'obtenir, le faire déshydrater l'eau pour le récupérer. Donc aujourd'hui, on ne récupère pas le sel. On traite de l'eau qui a quand même 4-5 grammes de sel par litre. Et puis, on m'a déjà fait des demandes pour traiter de l'eau qui a 8 à 10 grammes de sel par litre en Asie centrale. On n'a pas encore de vraie solution pour ça. Mais voilà, il y a des demandes de traiter l'eau somate qu'on trouve un peu partout dans le monde. Et puis autrement, on fait du traitement d'eau de ruissellement qui contient uniquement des bactéries et donc par des systèmes de filtre à sable, chloration aussi, plus simple.
Ingénieur agronome, ingénieur forestier, ça veut dire qu'on pourrait parler, on parle de l'eau, ça c'est une chose. Maintenant, par rapport à ces compétences qui ont plus à faire avec la chlorophylle qu'avec l'eau, quel est votre rôle dans cette dynamique, François par exemple?
Dans cette dynamique, c'est que l'eau n'est pas seulement utilisée par les mains pour l'hygiène, etc. Mais une partie de l'eau, nous la réservons par exemple à créer des jardins scolaires et des jardins de cuisine dans les familles qui sont ciblées, mais aussi à l'hôpital, dans les centres de santé. Et on peut juste organiser les gens qui viennent à l'hôpital pour se construire un petit jardin afin de voir comment on fait le semis, comment on cultive les légumes, etc. Juste des petits jardins familiaux que les gens apprennent à apprivoiser à partir de l'hôpital ou à partir des écoles. Mais on ne va pas se limiter là parce que l'eau dans les villages est utilisée aussi pour l'irrigation ou pour, surtout pour les animaux aussi.
Les 17 objectifs du développement durable, ils sont interconnectés. Quand on parle de l'eau pour manger, de l'eau pour boire, de l'eau pour se laver, pour les animaux et pour les champs. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que les partenaires qui viennent nous voir, on ne vient pas non plus, on ne vient pas découvrir, on n'est pas les premiers, mais il y a des besoins qui sont déjà répertoriés dans ce qu'on appelle les plans locaux de développement. Donc, toute cette sorte de coopération a fait que les demandes sont centralisées dans un document stratégique local. Et la demande donc elle vient, on ne vient pas s'insérer par accident, on vient vraiment dans une logique. Alors si par exemple nous faisons de l'eau, il y a peut-être une autre association qui fait de la sensibilisation pour l'alimentation, pour la nutrition, pour la santé, la protection du paludisme, parce qu'on sait que les problèmes de nutrition sont aussi liés aux problèmes de la santé. Donc c'est tout un lien et c'est cette collaboration qui fait que... on a une expérience riche, finalement.
Alors, quand je regarde ce monde-là, avec ces beaux points rouges sur quatre continents, je pense que ce n'est pas toujours une mince affaire, localement, puisque c'est l'objectif que vous avez, de fédérer des compétences locales pour développer un projet qui soit vraiment, vraiment solide. Comment vous faites pour être sûr, déjà, que les compétences qui vont venir sont vraiment des compétences validées? Et puis, de quelle façon, par la suite, vous allez les motiver pour qu'elles aient des solutions pérennes, qu'elles se débrouillent bien sur place avant de demander des thunes en Suisse ou ailleurs, par exemple?
Alors, la pérennisation commence déjà, comme a dit Jean-Marc, par la demande locale. Si quelqu'un vient demander, c'est qu'il est conscient de ce qu'il manque, de ce qu'il y a à faire.
Donc, ils viennent vous voir direct? Comment ils font?
Ben, les contacts, comme ça a été dit, il y a le site internet, bien entendu, mais ils sont tout le temps en voyage, donc on parle...
C'est bien beau d'avoir un site, mais il faut le faire connaître.
Exactement. Et puis, il y a des gens qui organisent des événements, et là, on a des stands de démonstration, donc on fait le mieux qu'on peut puisse faire pour nous faire connaître, mais aussi des gens qui relaient les actions de HADED. Et donc, localement, donc on a dit, il y a des partenaires qui sont là, et puis on est une ONG suisse, il y a des représentations suisses localement, donc on ne part pas de zéro quand même. Et alors, les compétences, théoriquement, elles sont là, et si elles ne sont pas là, ou bien qu'elles ne sont pas comme elles devraient, il y a toujours un plan de renforcement des compétences qui fait partie de la formulation d'un projet. Parce que la formulation d'un projet, c'est qui va le suivre, qui va pouvoir le faire. Et comme ça a été dit, il faut que les gens locaux puissent se l'approprier, le suivre et le garder. Donc c'est déjà ça le point de pérennité.
Donc vous avez un feedback dans le suivi de chacun de ces projets?
Oui, parce que chaque projet, quand on donne un appui financier et qu'on vient sur le terrain, personnellement, je n'ai pas encore été sur le terrain pour visiter les projets HADED, mais j'étais 23 ans sur le terrain. Et il y a des rapports de suivi, il y a des communications téléphoniques, il y a des emails. Et donc, il y a un suivi que je trouve un peu trop, moi, je trouve. Mais il y a un suivi, il y a des résultats, il y a des photos et surtout les témoignages des gens. Donc, on vous invite à venir sur le terrain.
Alors, venir sur le terrain, c'est une chose. Maintenant, je suis déjà invité avec ma femme dans plusieurs endroits sur cette planète. Il y a une chose qui est sûre, c'est que pour aller quelque part, ça coûte des sous, ça coûte du bilan carbone. Et bien évidemment, quand il faut dépenser 1000 ou 2000 francs simplement pour être accueilli quelque part, on se dit qu'on ferait mieux de les donner tout de suite pour un projet, non ?
Effectivement, mais quand on regarde la nouvelle formulation, et moi, je ne suis pas suissesse, mais j'adore l'approche suisse de la coopération au développement.
Ça fait un moment que j'étais en Suisse.
Ah oui, quand même, 10 ans, mais je suis de Belgique, du Rwanda, j'ai vécu au Sénégal et au Niger. Mais c'est l'approche suisse, vraiment, elle est très bien parce qu'elle ne vient pas imposer, on ne vient pas en paternaliste, on respecte les gens. On travaille, on est des collaborateurs et des partenaires, et ça, vraiment, ça se ressent. Et quand vous voyez la formulation du projet, vous ne voyez pas que le chef de projet sera suisse, le visiteur sera suisse. Non, il n'y a pas ça, justement.
C'est la compétence en premier.
Ah ben moi, je trouve que c'est d'abord l'utilisation de la main-d'œuvre locale, des compétences locales. Et alors, ces échanges, ce n'est pas des contrôles, mais finalement, c'est des interactions. Et c'est ça qui enrichit. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas dans les rapports. Et quand vous allez voir les gens, ils vous les racontent. Donc, c'est cette richesse-là, quoi.
J'ai entendu parler de aussi de temps en temps d'événements. Président François, c'est quand le prochain événement ?
À la fin de l'année, on va organiser une petite présentation dans notre bureau, montrer à nos membres et aux autres, bien sûr, qui seront de passage, voir ce que nous avons fait, ce que nous voulons faire, et bien sûr, réparer aussi de nos peines.
Quand vous entendez « Merci la vie », ça résonne comment en vous ?
Ben, merci la vie d'être dans un pays des droits de l'homme, des humains.
Merci, c'est mieux.
D'être dans un pays.
Non, mais on se soigne.
Voilà, des droits humains où on peut avoir l'opportunité de cette émission, où on parle de la solidarité internationale. Merci de l'opportunité que j'ai eue de rejoindre ADED. Moi, j'ai connu Jean-Marc parce qu'on travaillait pour une même organisation et on m'a dit, mais vous êtes dans l'associatif. Il y a quelqu'un qui a une association et je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui a son travail, qui n'avait pas besoin de créer une association et pourtant qui l'a fait pour les autres. Donc, merci la vie parce que c'est ces contacts qui se font. Merci la vie parce que là-bas aussi, la petite graine que nous plantons dans une petite structure comme celle-là, c'est une communication qui se fait. C'est un élan de solidarité qui se lance. Donc, vous aurez remarqué qu'on est une ONG, mais on est une petite ONG comparée aux tailles des autres ONG. Mais qu'est-ce qu'on a un grand cœur, quoi.
J'espère que les gens qui vous font des dons l'ont tout autant.
Ils sont bienvenus, c'est très très apprécié.
Tu m'étonnes. Jean-Marc, si je zoome un petit peu plus proche maintenant, dans ces dernières 48 heures, est-ce qu'il y a un événement qui te dit, si je n'avais pas vécu l'instant, je ne me serais pas rendu compte qu'il y avait une petite étincelle de bonheur autour de moi, dans ces dernières 48 heures, qu'est-ce qui t'a fait tilter ?
Ben, il y a 48 heures, je rentrais de Madagascar, un pays où j'y allais pour la première fois, que j'ai découvert magnifique, ça m'a beaucoup plu. J'y allais avec un collègue pour des demandes d'eau. Donc, on a fait connaître la pompe. C'est des porteurs de projets qui nous ont sollicité pour la pompe, pour le robinet de drop, pour l'hygiène des mains, pour un projet de production d'énergie solaire photovoltaïque parce que le réseau là-bas ne fonctionne pas très bien. Il n'y a pas eu les investissements suffisants et donc le réseau est moitié du temps en panne. Pour un projet d'apiculture, comme mon collègue qui est apiculteur et qui a donné une formation à 50 personnes sur place, il a dit mais c'est la Suisse qui devrait être pauvre et Madagascar très riche à cause de ses richesses. Mais on a pu vraiment collaborer, trouver des personnes magnifiques. Et je me réjouis vraiment de voir la suite que ça va donner. Nous avons pu apporter nos compétences, des solutions qui ont été développées, qui fonctionnent très bien. Et eux pourront les utiliser parce qu'elles ont été développées vraiment pour ces conditions-là. C'est un privilège de pouvoir connaître les besoins du terrain et d'être en Suisse entouré de personnes qui développent, qui ont beaucoup d'idées, de bonnes idées, et qui permet alors d'apporter ces solutions développées en Suisse vers ces pays, vers ces régions qui en ont besoin.
Tu peux me rappeler discrètement le nom de ta femme ?
Nathalie.
Nathalie, merci la vie. Qu'est-ce que ça évoque en toi ?
Alors, elle dure combien de temps, votre émission ?
Le temps qu'il faudra.
D'accord, parce que je peux revenir. Trois jours à ce que je vous explique. Non, j'ai un parcours un petit peu particulier. C'est vrai que je suis dans la mesure du possible mon mari. Madagascar, j'ai pas pu y aller puisque j'ai quelques soucis de santé qui clairement me limitent un petit peu. Mais maintenant, ça va mieux. Donc, au fait, pour être très clair, je suis atteinte de la maladie de Parkinson et je viens de subir une DBS, ou ce qu'on appelle DBS. C'est une stimulation cérébrale profonde. Donc, on m'a mis des électrodes dans la tête avec une pile sur le côté. Oh. Et là, on m'a quand même demandé de rester 6 mois tranquille. Donc, l'opération s'est faite fin mai. Donc, voilà.
Merci. Et dans ce cas-là, on dit comment ? Merci la vie.
Ben voilà, on dit tout le temps merci la vie parce que j'ai récupéré beaucoup de choses. Je revis suite à cette opération, donc on peut dire merci la vie.
François.
Oui, merci la vie aussi parce que notre travail, quand on s'affiche, on montre une goutte d'eau. C'est très significatif dans ce sens que la vie commence par une petite goutte d'eau. Une goutte d'eau. Et nos activités, au niveau des écoles, nous avons au départ ciblé aussi les petits gamins de la maternelle, de l'école primaire. Et quand on les voit, c'est encore, on se dit merci la vie quand on voit ces petits essayer de se laver les mains avec une goutte, on se dit, tout est petit au départ, qui finit par être grand. Merci la vie. Et de savoir qu'on appartient à une organisation comme celle-ci, je ne dirais pas qui donne la vie, mais quand même qui contribue à la vie, en apportant de l'eau propre, et même de l'eau. De l'eau pour autre usage. Hein. Ça peut être de l'eau potable comme ça peut être de l'eau pour autres usages. Voilà.
Alors, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, et vous êtes dans le bas. Moi, j'espère vraiment que nos auditrices et auditeurs vont vraiment raisonner positivement à ce que vous faites, parce que c'est comme ça que moi, j'ai envie de vous dire merci la vie. Voilà. Donc, bien sûr, tenez-vous au courant. François, je compte sur toi rapidement pour savoir quand c'est qu'on peut venir vous serrer la pince et puis avoir un petit événement ici qui peut aussi démontrer plus concrètement encore à nos auditrices, auditeurs ce que vous faites. Je vous souhaite bien évidemment à toutes et tous le meilleur du monde. Et puis, est-ce qu'encore quelqu'un veut profiter de ce moment de parole pour ajouter quelque chose ?
On voudrait vous remercier une fois de plus d'être venu. Vous vous êtes déplacé dans nos bureaux, vous avez vu ce qu'on fait et vous avez entendu, vous allez transmettre notre message, notre appel. Alors donc, vos auditeurs et auditrices, ils sont aussi invités au chemin 80, chemin du sport, de venir nous saluer. Et vous aurez bientôt sur le site internet les invitations. Merci encore et soyez bénis.
Magnifique, ben, on va finir ça en faisant une petite photo de famille quasiment, ok ? Allez, chers amis, auditrices, auditeurs, merci de votre écoute, merci de vos retours qui nous vont droit au cœur, et puis à tout bientôt. Au revoir.
Au revoir.